Épître de Paul aux Romains, au chapitre 6. Romains 6. Cette semaine, on a appris que notre frère Murray Clark a fait un AVC. Et puis, son épouse et Suzanne est ici ce matin. Et puis, il est hospitalisé encore présentement. Je pense qu'il était paralysé d'un côté. Et puis, notre frère a besoin de nos prières, la famille aussi. Et puis, on va, après avoir lu le passage, on va prendre un temps pour prier pour eux. Et je vous invite à le faire aussi, personnellement, aussi dans vos petits groupes, que le Seigneur puisse mettre sa bonne main sur lui, le garder, et puis mettre la main aussi sur la famille qui vit cette difficulté-là. On va lire Romains 6, les versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es glorieux, tu es grand. Ce que tu as accompli pour nous vaut plus que tout l'or du monde, Seigneur. Il n'y a pas de trésor plus précieux que toi, Seigneur Jésus. On voit dans ce passage ce que tu as accompli pour nous et ce que tu continues de faire pour nous aussi, Seigneur. On veut te louer pour cela, te louer parce que tu nous as tant aimés, mais aussi parce que tu es présent dans nos vies et parce que tu nous soutiens. Seigneur, on veut prendre ce temps ce matin pour prier pour M. Clark qui a subi cette AVC cette semaine et qui souffre présentement des conséquences de ça. On te prie dans ta grâce, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur lui, mettre ta bonne main sur lui afin que tu puisses, dans ta grâce, le restaurer et que tu puisses être aussi avec ceux qui s'occupent de lui, les médecins, afin que dans ta souveraineté, Seigneur, tu leur donnes la sagesse pour le prendre soin de lui. Soit avec son épouse, soit avec Suzanne aussi, sa fille qui est avec nous. On te prie que tu puisses les entourer, Seigneur, de ta compassion, de ton amour à travers nous, Seigneur. Utilise-nous pour être présents dans cette situation difficile et que on puisse, dans ta grâce, les entourer, que qu'ils puissent être témoins de ton amour à travers nous, Seigneur. Seigneur, on veut te rendre gloire pour ce que tu as fait à travers l'équipe de JBEC cet été en France. Merci pour Jessica qui a été bénie à travers cette expérience. Merci parce que tu l'as fait grandir à travers ça. Merci aussi parce que des gens ont entendu l'Évangile et l'Église qui est en implantation là-bas a pu développer des liens importants avec des gens responsables dans la ville et on te prie que le témoignage de Christ puisse se propager dans cette ville et que ça puisse avoir un effet. Que la semence qui a été semée là-bas en France, Seigneur, puisse porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. On veut te prier aussi pour notre frère Yannick, son épouse Esther et les enfants qui sont en vacances. Seigneur, bénis-les, donne-leur le repos, pendant ces semaines de vacances, qu'ils puissent se ressourcer, physiquement, mais aussi se ressourcer en toi, Seigneur, et qu'ils puissent revenir avec une nouvelle énergie, Seigneur, et toujours avec un cœur rempli d'un amour pour toi, pour te servir et conduire cette Église, Seigneur, dans ta volonté. Seigneur, merci pour Yannick, merci pour Esther et merci pour leur ministère parmi nous. On te prie de les bénir, Seigneur. Et bénis-nous ensemble ce matin aussi, Seigneur, alors qu'on plonge les regards dans ta parole. Aide-nous à avoir un cœur ouvert, un esprit bien disposé pour écouter, pour entendre ce que ta parole a à nous dire. Mets ta main sur moi aussi, Seigneur, afin que je puisse être un serviteur efficace pour toi. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur Jésus, parce que tu dis dans ta parole que sans toi, je ne peux rien faire. C'est sur toi que je veux m'appuyer ce matin. Que dans ta grâce, je puisse avoir les bons mots et communiquer clairement à mes auditeurs ce que ta parole nous enseigne et que nous puissions ensemble le vivre pratiquement en Église. Toutes ces choses, Seigneur, on les prie pour toi, pour ta gloire, afin que ta gloire éclate autour de nous et dans ce monde. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. On a commencé la semaine dernière une nouvelle série. Une série que j'ai décidé d'intituler « Une vie nouvelle en Christ ». Et puis, déjà, à partir du passage de Romains 6, on a commencé à voir des éléments de notre nouvelle réalité en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on veut faire à travers cette série-là? C'est encore mieux comprendre ce que Dieu veut pour nous, la vie qu'on a reçue en Christ, et c'est quoi les éléments importants à retenir de cette nouvelle réalité-là pour qu'on puisse le vivre. Le Seigneur est venu sur la terre, est mort sur la croix, il est ressuscité des morts pour qu'on puisse être transformé. Qu'est-ce que ça veut dire au jour le jour d'avoir une nouvelle vie en Christ et de le vivre? On veut comprendre encore plus qu'est-ce que l'Évangile qui nous transforme a à nous enseigner pour qu'on puisse vivre pleinement cette nouvelle vie-là. Aussi, on veut retrouver la joie. Comme je l'ai mentionné, des fois dans notre vie chrétienne, on vit des déserts spirituels, notre joie s'est estompée avec le temps, on a moins de joie de vivre pour le Seigneur, mais on veut retrouver cette joie-là, parce que la vie nouvelle que Christ nous offre, c'est une vie qui est merveilleuse, qui est passionnante, mais il faut savoir comment on peut la vivre pour qu'elle soit passionnante et comment le Seigneur nous aide à vivre cette vie-là. Alors, pour ceux qui, lorsque je parle d'une vie passionnante avec le Seigneur Jésus, sont là et ils disent « Ouais, ça c'est pour moi, c'est du passé ». J'espère qu'à travers cette série-là, vous allez pouvoir encore mieux comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous à travers la bonne nouvelle qu'il nous a apportée et aussi comment on peut le vivre ensemble pour vivre cette joie de vivre pour Dieu et pour sa gloire. Donc, le passage dans Romains 6 nous enseigne des éléments importants que chaque chrétien doit comprendre pour vivre la vie nouvelle. Et encore une fois, on a lu ce matin la conclusion, en fait, d'un paragraphe dans le passage au verset 11. Et dans le fond, c'est ce que Paul est en train d'exprimer. C'est vraiment deux éléments, deux aspects de notre nouvelle réalité en Jésus-Christ. Verset 11, il va dire « Ainsi vous-même, ainsi voulant, comme après avoir tout dit ce que je viens de dire, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et la semaine dernière, on a vu ce premier aspect d'être mort au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'œuvre de Christ fait en sorte que moi, je suis mort au péché et que maintenant, je suis vivant pour Dieu aussi? On va voir ça cette semaine, mais la semaine passée, on a vu, c'est concentré sur la mort. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que je suis mort au péché? Et on a vu que l'œuvre de Christ, par sa mort, Jésus a accepté de subir la mort, de subir la conséquence du péché. Il a subi la mort pour pouvoir ressusciter ensuite et avoir la victoire sur la mort, mais aussi sur le péché, parce que la mort est la conséquence du péché. Alors, en ressuscitant des morts, Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, pour que nous, à notre tour, lorsqu'on s'identifie à Jésus-Christ, lorsqu'on l'accepte par la foi et qu'on s'identifie à lui par le baptême, on puisse nous aussi avoir cette victoire-là sur le péché. Dire qu'on est mort au péché et avoir la victoire en Jésus-Christ. L'œuvre de Christ a vaincu le pouvoir du péché dans nos vies et c'est quelque chose qu'on peut vivre dès maintenant. C'est pas quelque chose qui est futur lorsque le Seigneur va revenir. Oui, une partie, mais déjà ça a commencé. Déjà, on a pu être mort au péché et on peut vivre cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ en étant mort au péché parce que Christ a vaincu la mort, a vaincu le péché. Mais cette semaine, on voit le deuxième aspect de cette nouvelle réalité en Jésus-Christ qui est qu'on est maintenant vivant pour Dieu. Je suis mort au péché, mais ça m'amène à quelque chose d'autre. Ça veut dire être mort au péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en retour, je vais ressusciter avec Christ. Je suis mort, mon vieil homme a été crucifié avec lui, mais je vais ressusciter avec lui pour vivre une vie nouvelle avec lui. Et maintenant, par notre union à Jésus-Christ, on est libre du péché, mais on est libre afin de vivre pour la gloire de Dieu. On est libre pour vivre pour Dieu et être vivant pour Dieu. Donc, le péché, ce que Christ a fait pour nous, nous libère du péché, mais nous libère aussi pour vivre pour la gloire de Dieu, pour qu'on puisse vraiment remplir le plan de Dieu pour nous, de vivre pour sa gloire. Alors, en Jésus-Christ, non seulement nous sommes morts au péché, mais nous sommes ressuscités avec Christ dans une vie nouvelle. Et c'est le premier point ce matin, que nous sommes de cette réalité. C'est une réalité, le deuxième aspect de la réalité qu'on a en Jésus-Christ, c'est qu'on est ressuscité dans une vie nouvelle. Et cette résurrection-là, on voit dans le passage que Paul semble prendre pour acquis que la résurrection de Christ est une réalité. C'est un fait. C'est arrivé. Par contre, je peux très bien comprendre que pour aujourd'hui, à notre époque, c'est pas nécessairement aussi évident. C'est pas aussi évident de prendre pour acquis qu'un homme est ressuscité des morts et puis que ça a un impact, puis on voit des gens, une église se former, etc. C'est pas si évident que ça. Parce que Paul, vraiment, va baser toute cette théologie de notre vie nouvelle en Christ et cette réalité de la vie nouvelle en Christ, en Jésus-Christ, que lui-même est ressuscité. On vit dans un monde où la science fait beaucoup de progrès, puis elle nous fournit beaucoup plus de réponses qu'on a auparavant. Mais si on demande à la science de nous expliquer le fait qu'un homme est ressuscité des morts, c'est encore difficile parce qu'on ne l'a jamais vu ou presque avant Jésus-Christ. Christ l'a démontré à travers la résurrection de Lazare. Mais on n'a pas vu ça très souvent, de voir un homme ressusciter des morts. En fait, c'est un miracle. Et puis aujourd'hui, des miracles, si on n'est pas capable de prouver quelque chose scientifiquement, en fait, on le croit pas, ou on est plus sceptique, je pourrais dire. On est pas mal plus sceptique à croire les miracles ou ces réalités-là. Puis on a développé, même nous les croyants, on a développé un esprit scientifique de plus en plus sceptique par rapport à tout ce qui pourrait être surnaturel. Par contre, il y a un problème avec ça, c'est qu'on présuppose que tout doit être expliqué scientifiquement. Mais est-ce que vraiment toutes les réalités s'expliquent scientifiquement? On essaie de trouver, par exemple, on a vu des sentiments dans nos vies, on a de l'amour, on a de la joie, on pleure, et puis on essaie de comprendre comment le cerveau a réagi et comment ça a fonctionné. Puis on essaie de comprendre scientifiquement ces choses-là, c'est bien. Puis honnêtement, la science nous a aidés à faire des progrès, puis on a avancé avec la science. Mais est-ce que ça veut dire que toute réalité peut vraiment être expliquée avec la science? Et est-ce que quelque chose, une réalité, peut ne pas être expliquée scientifiquement? Alors, le point, est-ce que ça veut dire que si je suis pas capable de le prouver, ça s'est pas passé? Et de là, je veux juste clarifier, il y a une présupposition qui s'installe dans les cœurs de plus en plus des gens aujourd'hui, c'est que si je suis pas capable de le prouver, ça veut dire que ça s'est pas passé. La résurrection de Jésus-Christ, je l'ai dit, c'est un miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. Puis je peux comprendre qu'il y en ait certains qui aient des doutes par rapport à ça. Que Christ est mort, ça je peux croire à ça, qu'il a été crucifié, qu'il a été rejeté. Ça, il y en a plusieurs qui ont été battus, il y en a plusieurs qui ont subi des tortures et qui en sont morts. Mais de dire qu'il est ressuscité vraiment, pas certain. Le seul endroit où je voudrais amener ceux qui pourraient être sceptiques par rapport à la résurrection, c'est que si on rejette la réalité de la résurrection, on est en train aussi de rejeter des réalités qui ont découlé de la résurrection. Entre autres, L'Église existe. On se promène dans les villages du Québec et puis on voit de ces édifices qu'on appelle les églises qui sont là, qui sont présents. Comment j'explique la naissance de l'Église? Si je dis que je rejette la résurrection de Jésus-Christ, nous, on croit comme croyants que c'est là que l'Église a commencé, avec la résurrection de Jésus-Christ. Il faut expliquer ces réalités-là qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Dans un sens, si je rejette la réalité de la résurrection, je suis en train de rejeter, dans le fond, la réalité de l'Église en même temps. Mais l'Église est là, alors il faut que je l'explique. Comment on l'explique? Et c'est peut-être un petit défi dans un sens pour vous. C'est d'essayer de comprendre ces réalités-là qui sont là et de ne pas juste rejeter du revers de la main des choses qui peuvent, des fois, parfois, peut-être avoir l'air farfelues. Nous, on croit que Christ est ressuscité des morts. C'est une intervention divine, surnaturelle qui est arrivée. Et puis, je veux juste inviter ceux qui seraient dit, la résurrection, c'est farfelu cette histoire-là, les miracles, ça n'existe pas. Ben, avant de le rejeter, allez un peu plus loin. Essayons de voir c'est quoi les arguments. Essayons de voir c'est quoi les contre-arguments, puis évaluer qu'est-ce qui fait le plus de sens dans tout ça. Mais pour nous, on croit que Christ est ressuscité parce que plus qu'un témoin oculaire qui l'a vu. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 15. Et j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 15 quelques instants pour qu'on puisse voir ensemble qu'il y a des bonnes raisons de croire que la résurrection s'est réellement passée. C'est pas juste une personne quelque part dans son coin qui a inventé cette histoire-là. Au contraire. Il y a eu des témoins oculaires de cet événement-là, et cet événement-là nous est rapporté dans les Écritures comme étant un fait, comme étant quelque chose qui s'est réellement passé. Alors, comme chrétiens, nous aussi, on a besoin de plonger nos regards dans les Écritures pour voir pourquoi je crois à la résurrection. Est-ce que j'ai accepté ce fait-là tout simplement, ou on peut quand même se défendre et donner des raisons pourquoi on croit à la résurrection? 1 Corinthiens 15, les versets 5 à 8, entre autres, Paul fait cette dans le fond, défend la résurrection. Et puis, je vais commencer en fait à partir du verset 3, mais on va se concentrer un petit peu plus sur 5 à 8. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Et puis, un des points ici qu'on voit, c'est que Paul va défendre cette réalité de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus qu'un qui l'a vu. Il est apparu, Jésus, après sa mort, est ressuscité, et il est apparu à plus qu'une personne à la fois. À 500 en même temps, 500 personnes en même temps ont vu Jésus ressuscité corporellement et ont vu le Jésus ressuscité. Et puis, l'argument de Paul, c'est qu'il y en a encore qui sont vivants et qui ont vu ça, puis ils peuvent continuer de vous raconter puis vous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Pour nous, c'est difficile de reculer dans le temps puis de se placer dans le fond. On peut pas revenir dans le temps puis vivre cet événement-là. Mais comme tous les faits historiques, on se base sur le témoignage des gens qui ont vécu à cette époque-là. Et puis, ce n'est pas un témoignage farfelu parce qu'il est apparu à pas juste une personne, à plusieurs en même temps. Et ces gens-là ont attesté cela. Alors, l'existence même de l'Église. Pourquoi tout d'un coup dans l'histoire il y a eu ce changement-là? Il y a une Église qui est née. C'est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Puis pour nous, comme croyants, ça a de l'importance. Pourquoi? Parce que notre espérance, notre résurrection à la fin, repose sur le fait que Christ est ressuscité. Et Paul va dire dans les versets 17 à 19 d'un Corinthiens 15, et si Christ n'est pas ressuscité, en fait, si ce n'est pas la réalité, si ce n'est jamais arrivé, qu'est-ce qui arrive? Votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. On est encore mort dans nos péchés si Christ n'est pas ressuscité. Alors, c'est important pour nous. Et par verset 18, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et verset 32, il va dire, à peu près au milieu du verset, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et donc, si les morts ne ressuscitent pas, si Christ n'est pas ressuscité, donc les morts ne ressuscitent pas, ça donne quoi tous ces efforts-là qu'on fait pour l'Évangile, va dire Paul? Ça donne quoi d'avoir une église ici? Moi, je me suis présenté ici ce matin pour apporter un message de la parole parce que je crois que Christ est ressuscité des morts puis que c'est arrivé. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, on vend ce bâtisse-là, ma gang, puis on fait un gros party. Non, c'est vrai, pourquoi on est ici, là? On a d'autres choses à faire que ça. On va aller demander à nos connaisseurs ici un petit vin, une petite bière, puis on va se faire un gros party. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça donne rien si Christ n'est pas ressuscité. Mais Christ est ressuscité, puis je m'en irai pas, puis je vendrai pas à Baptiste pour me faire un party, parce que je crois qu'il est ressuscité. Puis cette Baptiste-là, puis tous ces gens qui sont rassemblés ici, servent à proclamer ce fait-là que Christ est ressuscité. Amen. Maintenant, c'est juste pour défendre la résurrection un petit peu. On va revenir à Romains 6 pour qu'on puisse comprendre maintenant c'est quoi les implications pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que nous sommes ressuscités? Revenons à Romains 6. On peut dire qu'on est ressuscité parce qu'on s'est uni à Jésus-Christ. On ressuscite dans une nouvelle vie lorsqu'on s'unit à Jésus-Christ. Et on l'a vu la semaine passée en détail, puis j'ai essayé de découper ça en petits morceaux pour que vous puissiez le recevoir puis bien comprendre. Mais dans le fond, le point, c'est que si on est ressuscité, c'est la même raison pour laquelle on est mort à nos péchés, c'est parce qu'on s'est uni à Jésus-Christ. Et on voit ça dans le verset 3, entre autres. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, on s'est unis à Jésus-Christ dans sa mort. Mais plus que ça, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc, on s'est identifié à Jésus-Christ et on est mort au péché dans le but de vivre une nouvelle vie en Christ et dans un sens, on s'est uni à Jésus-Christ lorsque nous avons cru, lorsque nous sommes identifiés à lui par le baptême, on a cru par la foi de tout notre cœur que Christ a payé pour nos péchés, qu'il est le seul qui peut nous sauver de la condamnation. Et lorsque j'ai saisi cette réalité-là, la mort, la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection, lorsque je l'ai saisi par la foi, ça a une implication devant Dieu. C'est pas juste un fait historique qui a pas d'effet. Ça a un effet. Lorsque je l'accepte par la foi, Dieu a agréé ce sacrifice-là et fait en sorte que maintenant je suis pardonné et sauvé de la condamnation. Mais on s'est uni à Christ dans sa mort. Mais si on est uni aussi à Christ dans sa mort, on l'est aussi dans sa résurrection. Verset 5 et 8, entre autres. En fait, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 8, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et donc, Christ est mort, mais plus que ça, je suis ressuscité avec Christ lorsque j'ai placé ma foi en lui. Non seulement dans sa mort, j'ai été uni à Christ dans la mort, mais aussi dans la résurrection. J'ai été uni à Christ dans sa résurrection. Verset 6, mon vieil homme a été crucifié avec Christ et ensuite on est ressuscité avec lui parce qu'il est ressuscité. Résultat de ça, on l'a vu la semaine passée, le pouvoir du péché a été vaincu dans ma vie. Mais là, ça va plus loin que ça. Une nouvelle vie en Christ commence. Je me suis identifié à Christ pour marcher dans une nouveauté de vie. Et puis verset 11, ça c'est le verset 4 qui dit ça, afin que de marcher en nouveauté de vie. Et verset 11 va dire, regardez-vous comme vivant pour Dieu maintenant. Et donc, le pouvoir a été vaincu, le pouvoir du péché a été vaincu, mais le pouvoir de la résurrection de Christ aussi m'a été donné pour que je puisse vivre pour Dieu maintenant. Et le but de ma vie a complètement changé. Et si on vit maintenant, c'est dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est par la grâce de Dieu et par sa puissance qu'on est ressuscité. J'aurai pas le temps d'aller dans le détail pour ça, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on est ressuscité. Éphésiens 2, les versets 4 à 6, si vous voulez aller les lire, dit que c'est Dieu qui nous a ressuscités avec Christ. Et donc, si je suis ressuscité, c'est la grâce de Dieu qui a été sur moi et qui fait en sorte que maintenant, je suis ressuscité avec lui. Dieu m'a ressuscité dans une nouvelle vie que j'ai saisi par la foi, lorsque j'ai saisi par la foi la grâce de la vie éternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tite 3, 5 va dire que je suis ressuscité dans une nouvelle vie parce que mon cœur, j'ai reçu l'Esprit de Dieu et mon cœur a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Mon cœur a été changé pour que je puisse vivre cette vie-là. Si on vit maintenant, c'est par la grâce de Dieu, par son Esprit qui vit en nous et qui nous a changé, qui nous a donné cette vie nouvelle pour vivre pour la gloire de Dieu. Et en fait, pourquoi Dieu nous a donné cette liberté-là? En d'autres mots, c'est quoi le but de cette nouvelle vie en Christ? On l'a mentionné déjà. On est ressuscité avec Christ afin de vivre pour la gloire de Dieu. Là, vous allez me dire, OK, c'est quoi cette histoire-là? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce langage-là, de vivre pour la gloire de Dieu. En fait, ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, c'est acquis un peuple nouveau. Et pour ça, pour comprendre cette idée-là, il faut reculer un petit peu dans l'histoire et se placer dans l'époque de l'Ancien Testament, où Dieu, au tout début, lors de la création, a créé toute chose et a créé l'homme pour que l'homme puisse être en relation avec lui. Mais l'homme est tombé, il a péché, et la relation avec Dieu a été brisée à cause du péché. Et maintenant, l'homme était complètement ravagé par le péché et incapable maintenant de faire le bien et d'avoir cette relation intime avec Dieu à cause de son péché. Mais Dieu, à un certain moment donné dans l'histoire, a choisi un peuple, un homme, Abraham, puis à travers sa descendance, a voulu se manifester et s'acquérir un peuple qui allait vivre pour lui, qui allait vivre pour sa gloire. Tous les hommes étaient perdus, ils ne pouvaient pas vivre pour la gloire de Dieu. Alors Dieu dit, je vais m'en choisir un et sa descendance, sa postérité, je vais les bénir pour afin qu'ils puissent vivre pour ma gloire. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le peuple d'Israël n'a pas vraiment bien suivi ce que l'Éternel leur avait demandé. Et il a poursuivi les idoles. Et au lieu de vivre pour la gloire de Dieu, ils ont vécu pour eux-mêmes et ils ont péché. Mais Dieu est en train de manifester quelque chose et de parler de quelque chose qui allait venir à travers ça. C'est que Dieu, il s'est choisi un peuple en Abraham. Et ce peuple-là allait venir plus tard d'un autre descendant d'Abraham, Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ, maintenant, le pouvoir du péché peut être anéanti et nous avons cette liberté de vivre pour la gloire de Dieu. Et Dieu s'est acquis un peuple nouveau dans Romains 9, les versets 24 à 26, là où les Juifs et Israël avaient manqué. Maintenant, nous pouvons vivre ce que dans cette vie-là à cause de Christ. Romains 9, verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, donc les non-juifs. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et à cause, pourquoi ça c'est possible? Pourquoi les non-juifs peuvent appartenir à Dieu et être appelés des fils de Dieu et des enfants de Dieu? C'est à cause de ce que Christ a accompli. Et donc, à travers Jésus-Christ, Dieu s'est acquis un peuple nouveau, un peuple appelé à être saint et à glorifier Dieu. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui avons saisi cela par la foi, on est devenus des enfants de Dieu. On est les fils du Dieu vivant. Et maintenant, qu'est-ce que ça a comme impact? Je marche dans une vie nouvelle et je suis vivant pour Dieu. Alors, le point ici, c'est que Dieu avait ce plan-là dès le départ. Que les hommes vivent pour sa gloire. Il s'est choisi un peuple qui a manqué, mais en Jésus-Christ, c'est maintenant possible, parce que Christ a vaincu le péché. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort à travers sa résurrection, et il nous donne la vie pour qu'on puisse vivre pour Dieu maintenant et glorifier Dieu. Et là, on va voir, dans un sens, qu'on glorifie Dieu réellement, et on remplit le plan que Dieu avait pour nous dès le départ lorsqu'on marche dans la sainteté. Et c'est ça le point dans Romains 6, Tout le texte découle de la question, est-ce qu'on va demeurer dans le péché parce que j'ai été justifié, je parais juste maintenant devant Dieu? Non, loin de là, maintenant je suis mort au péché et je suis vivant pour Dieu dans l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ était là pour me rendre vivant pour Dieu. Et maintenant qu'on est ressuscité avec Christ, qu'on a été régénéré par l'Esprit-Saint, c'est possible de produire des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu, puis de vivre pour la gloire de Dieu. On voit ça entre autres dans Romains 8, le verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et maintenant, on vit selon l'Esprit de Dieu et on peut marcher dans la sainteté parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on appartient à Dieu et on vit pour sa gloire. On voit plusieurs autres versets. Vous connaissez Éphésiens 2:10 aussi, que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Ces bonnes œuvres-là servent à quoi? C'est la sainteté. C'est un peuple mis à part pour Dieu, pour le glorifier. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est dans un sens, lorsqu'on appartient à Dieu, on marche pour le glorifier, puis on marche dans la sainteté. C'est une sainteté qui se manifeste. C'est par la sainteté que nous manifestons que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit me rend témoignage à moi que je suis un enfant de Dieu, mais comment les autres vont le savoir que je suis un enfant de Dieu? C'est lorsque je vais pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, mais lorsque je vais marcher dans la sainteté aussi. Si je dis que j'appartiens à Dieu puis que je suis vivant pour Dieu maintenant, les gens s'attendent à une différence. Et cette différence-là, c'est que je marche dans la sainteté, dans la pureté devant Dieu. Ma femme, elle trouve des fois que je radote. C'est vrai. C'est vrai. Puis je vais probablement encore radoter cette année. À toutes les années, lorsque c'est le temps des pommes, hein, le temps d'aller cueillir les pommes, ça arrive bientôt, on a hâte. On va au verger et à chaque année, je suis impressionné par quelque chose, c'est fascinant, j'en reviens pas. Comment un pommier peut produire autant de pommes? C'est comme, tu arrives devant un pommier, tu dis, mon ami, comment il a fait, comment ça marche tout ça, là, c'est fascinant. Mais quand tu penses, est-ce que le pommier était avant de devenir un pommier? C'est encore plus fascinant. C'était quoi? Une petite graine. Hein? Un petit pépin de pomme. Ben niaiseux. Hein? Mais tout d'un coup, on l'a enseveli. On l'a mis dans la terre. Et qu'est-ce qui est né de ça? Un pommier. Qui tranquillement, en grandissant, s'est mis à produire du fruit. Il y avait des branches qui n'en produisaient pas. On les a coupées. On les a tassés de là pour qu'ils produisent encore plus de fruits. Et chaque année, je vois ce pommier-là, puis je ne peux pas m'empêcher de dire, de voir cette image-là dans ma tête de la sainteté, puis de produire du fruit pour Dieu. Et dire, Seigneur, moi, je produis-tu autant de fruits que ça pour toi? Est-ce que je marche dans la sainteté, puis je produis-tu de ce fruit-là, comme ce pommier-là qui est en santé, puis que je vois les pommes, puis dans le fond, je peux... J'ai pas d'argent pour payer les pommes que juste un pommier peut produire. C'est incroyable. Maintenant, c'est ça notre mandat maintenant. Maintenant que je suis mort avec Christ, je suis mort au péché. Je vis maintenant pour produire du fruit, le fruit de la sainteté. Verset 22, Romains 6, le fruit de la sainteté. Produire du fruit pour Dieu. Je suis vivant pour Dieu. Et c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour vous. Qu'on puisse être des pommiers qui produisent du fruit pour la gloire de Dieu. Et en fait, c'est là qu'on trouve vraiment notre joie. Lorsqu'on vit pour la gloire de Dieu. Lorsque je vis pour la gloire de Dieu, je trouve ma joie puis mon bonheur. Parce que c'est pour ça que j'ai été créé. J'ai été créé pour vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça que mon Créateur avait choisi dès le départ. C'était le plan qu'il avait pour moi. Que je puisse vivre pour sa gloire. Maintenant, il y en a qui se disent peut-être, ouais, je comprends tout ça, mais honnêtement, ça fait un petit bout que je n'ai plus cette joie-là. Puis je l'ai mentionné un peu tantôt. J'ai plus de joie là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a plus cette joie de vivre dans la sainteté puis de donner gloire à Dieu? Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me pose des questions. Puis honnêtement, cette semaine, je me creusais les méninges. Qu'est-ce qui fait que je ne vis plus cette joie-là? Ça m'arrive moi aussi. Que je ne vis plus cette joie-là de vivre pour Dieu puis de vivre dans la sainteté. Que ce soit une motivation pour moi de vivre dans la sainteté, le fait que je glorifie Dieu à travers ça. Et la question que je me suis posée, c'est que, En réalité, la joie que j'ai à glorifier Dieu, c'est Dieu qui me donne cette joie-là. C'est son esprit qui me la donne. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis en train de rechercher la joie de l'esprit de Dieu ou ma joie personnelle? Est-ce que je suis en train de rechercher ce qui fait plaisir vraiment à Dieu ou je suis en train de chercher ce qui fait plaisir à moi? Parce que même lorsqu'on est en train de servir Dieu, des fois on a nos petits désirs qui sont là. Pas nécessairement les désirs de l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner un exemple. On vit des épreuves, puis des fois on peut être affecté par une maladie. C'est pas ça que j'aurais voulu. Mais c'est le plan que Dieu a pour moi. Il a permis ça dans ma vie. Est-ce que c'est possible de vivre la joie dans l'épreuve de la maladie? Je pense que c'est possible de vivre la joie de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur le dit. Il dit, regardez les différentes épreuves comme un sujet de joie. Parce que ça produit la patience, la persévérance et puis la victoire dans l'épreuve. Donc, gloire à Dieu pour ça. Et donc, qu'est-ce que je recherche vraiment? Est-ce que c'est la joie de l'Esprit de Dieu? Et lorsque je suis dans une passe ou désert spirituel, on pourrait dire, un désert spirituel, qu'est-ce que tu es en train de satisfaire? C'est-tu vraiment tes besoins à toi, tes désirs à toi, même dans ta vie pour Dieu? Je vous donne un exemple. Pour moi, personnellement, des fois, ça peut être, c'est ma prière à Dieu, puis ça peut être difficile parfois de dire, d'être un pasteur d'évangélisation, de témoigner à des gens, puis d'avoir si peu de conversion. Seigneur, tu veux que tous soient sauvés. Pourquoi il n'y en a pas plus? Puis il y en a ici qui prient depuis des années pour que quelqu'un de leur famille puisse se convertir. Je parlais avec une dame cette semaine, plus de 30 ans. Il ne s'est pas converti encore. Oh boy, comment je fais pour avoir la joie de l'Esprit de Dieu dans ces moments-là? Parce que Dieu veut qu'il soit sauvé, mais en même temps, il y a la souveraineté de Dieu qui est là dans tout ça. Et je peux, à travers le fait qu'il y a très peu de conversions, me réjouir de celle qui a eu lieu. Je vois des gens se convertir. J'en vois pas des tonnes. C'est Dieu qui veut ça comme ça. Moi, j'aimerais ça en avoir plus. Mais Dieu a voulu ça comme ça. Puis, Seigneur, je veux me réjouir de celui qui s'est converti. Je ne veux pas regarder à tous ceux qui ne se sont pas convertis encore. Je veux voir, je veux me réjouir de l'œuvre que tu as faite. Tu as fait une œuvre, là. Je veux me réjouir de ça. Et dans les épreuves et dans les situations de ma vie, qu'est-ce qui plaît à Dieu vraiment? Qu'est-ce qui va me donner la joie de l'Esprit de Dieu? C'est lorsque je vais rechercher vraiment qu'est-ce que le Saint-Esprit a à cœur de faire. Puis dans les Écritures, on voit plusieurs exemples de la joie de l'Esprit de Dieu, la joie qui vient de Dieu. La conversion de quelqu'un à Jésus-Christ, un frère, une sœur qui grandit dans sa foi, qui surmonte une épreuve, qui obtient la victoire, un frère, une sœur qui est béni, peut-être des fois, tu sais, moi, j'aimerais ça être béni comme lui. Puis là, c'est la jalousie plutôt que la joie de dire, « Hey, Seigneur, merci parce que tu l'as béni. » Tu sais, voyez un peu l'idée. C'est pas toujours évident, mais c'est quoi la joie de l'Esprit de Dieu? J'essaie juste de vous donner des petits exemples. Quand je peux aider un frère, une sœur avec un besoin particulier, manifester ma bonté, ma bienveillance, je suis en train de mettre en œuvre le fruit de l'Esprit, puis il y a de la joie là-dedans. Me sacrifier entièrement pour mon épouse. Oh boy! Il y a de la joie là-dedans. Pas toujours celle que je recherche, mais la joie de l'Esprit de Dieu est là. La joie qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est quand je me sacrifie entièrement pour mon épouse. Puis elle a de la joie elle aussi. Gloire à Dieu pour ça. Dans le fond, c'est un amour qui est totalement sacrificiel qui se donne. Quand une relation brisée est restaurée par le pardon. Tous des exemples qu'on voit dans les Écritures, je n'ai pas tout donner plein, tous ces exemples-là, on les voit, on les lit dans le Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu se réjouit de ça. Lorsqu'on lit l'apôtre Paul, on voit qu'il se réjouit, qu'il y en a qui se sont convertis, qu'il y en a qui ont surmonté des épreuves, qu'il y en a qui nomment les choses. Mais l'apôtre Paul avait une joie, je pense, selon l'Esprit de Dieu. On voit plusieurs exemples de ça. Et on peut vivre réellement cette joie par l'Esprit de Dieu lorsqu'on recherche qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Maintenant, on va terminer avec ça. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Christ est ressuscité des morts. Je suis ressuscité avec lui, en m'unissant avec lui. Maintenant, je vis dans la sainteté. Je vis pour sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Pour grandir dans la sainteté et porter du fruit pour Dieu, on doit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens 5, 10 mentionne cela. Colossiens 3, 1 va dire, « Maintenant que vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Et je vous ai mentionné, entre autres, un aspect, qu'est-ce qui fait plaisir à l'Esprit de Dieu. Mais pour examiner exactement ce qui est agréable au Seigneur, je dois me nourrir spirituellement. Et là, je ne parle pas juste de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous nourrit spirituellement. Mais Jésus avait cette façon de dire, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ma nourriture, oui, je me nourris. J'examine ce qui est bon et agréable à Dieu, mais je veux le faire aussi. Lorsque j'examine ce qui est agréable à Dieu puis que j'ai été transformé, que je veux vivre une vie sainte maintenant, je mets en œuvre ce que Dieu me montre, ce qui est agréable au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Comment est-ce que je peux produire le fruit de la sainteté dans ma vie? Il y a plusieurs façons. Dans mon amour pour lui, est-ce que justement, lorsque on cherche à examiner ce qui est agréable au Seigneur, est-ce que mon cœur veut vraiment examiner ce qui est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est Dieu qui est à la première place ou qui prend toute la place dans ma vie? J'aime mieux dire ça comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui prend toute la place dans ma vie, dans tous les petits domaines, là? J'aime l'image dans la foi chrétienne expliquée de la maison. Lorsque on se convertit au Seigneur, on doit donner notre vie entière au Seigneur. On ne veut pas laisser l'Esprit de Dieu dans le portique, dans l'entrée, puis pas lui laisser la place dans les différents domaines de notre vie. Là, il y a une maison, puis une chambre, c'est les finances, une chambre, c'est la vie de famille, les enfants, tout ça. Est-ce qu'on laisse le Seigneur rentrer puis prendre toute la place? Et je veux examiner dans tous les domaines de ma vie le plus possible, chercher qu'est-ce que Dieu veut de moi dans mes relations avec lui, dans ma relation, dans mon foyer, dans l'église, avec les non-croyants, dans mes relations. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? On travaille à connaître ce qui glorifie le plus le Seigneur. Et boy, là j'en ai une bonne. Des fois, ça peut arriver, je fais des choses dans ma vie tous les jours, et puis la Bible ne dit pas nécessairement des choses contre ça. Okay? Il y a des choses qu'on pourrait dire c'est neutre, moralement neutre dans nos vies. Okay? La Bible n'est pas contre ça. Mais ça dépend de nos motivations vers ces choses-là. Okay? Mais il y a des choses qui sont moralement neutres, et puis des fois, je dis, ben, c'est pas mal de faire ça. Est-ce que je cherche à répondre avec c'est pas mal de faire ça, ou je cherche à répondre avec qu'est-ce qui peut glorifier le plus Dieu? Des fois, il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être tassées parce que même si c'est moralement neutre, c'est pas ça qui glorifie plus Dieu, puis ça m'empêche de glorifier pleinement. Alors, ça demande des efforts, frères et sœurs. Des fois, on peut... Oh, le Seigneur n'a pas contre ça. Mais est-ce que c'est ça qui glorifie plus le Seigneur? Est-ce que ça vous amène à glorifier vraiment plus le Seigneur? Et là, c'est des questions qu'on doit se poser. Puis je ne veux pas faire du légalisme, là, OK? C'est juste une question de dire, qu'est-ce qui me motive vraiment? La gloire de Dieu ou me satisfaire personnellement en disant, c'est pas mal. Cherche la gloire de Dieu. On veut chercher la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire nécessairement d'en faire plus pour l'Église ou pour le Seigneur. C'est pas ça que je suis en train de dire. L'idée, c'est pas d'en faire plus, mais c'est de grandir dans la sainteté au quotidien, dans les domaines de ma vie présentement, dans ma relation avec mon épouse. Je vis ça au quotidien, là. Dieu veut me sanctifier là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'a donné Cynthia, parce que, oh boy! Oh, pas fin, hein? Pas fin. Non, c'est le contraire. Le Seigneur m'a donné à elle parce que, oh boy! Mais c'est ça. Mais on parle pas d'en faire plus pour le Seigneur. On parle de vraiment de vivre la sainteté dans les différents domaines chaque jour. Dans la vie avec mon épouse, puis avec mes enfants, puis comment je réagis aux différentes situations que Dieu permet. Comment je peux vivre plus la sainteté à travers ces choses-là? Pour certains, ça se peut que ça soit d'en faire un peu plus. OK? Il y en a qui, on va dire, tu sais, je veux dire, la paresse, tu sais, ça se peut que ça soit d'en faire un petit peu plus. Mais c'est pas pour ceux qui sont déjà impliqués puis qui servent le Seigneur. Faites-le mieux. Puis faites-le, cherchez à grandir dans la sainteté dans ce que vous faites. C'est plus ça, l'idée ici. On ne veut pas s'attirer la gloire personnelle, mais on veut donner la gloire à Dieu en toute chose. C'est ça notre désir maintenant. Maintenant, soyons une église vivante qui célèbre la grâce de Dieu. On examine ce qui est agréable au Seigneur. On le fait individuellement, mais on veut le faire en Église aussi. Christ est ressuscité, je suis vivant pour Dieu, ça se vit pas juste seul. Ça se vit en Église. Puis l'Église a besoin d'être une Église vivante qui célèbre la grâce de Dieu dans nos vies. Une Église vivante, ça vit par l'Esprit de Dieu, est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est des chrétiens qui vivent, qui grandissent dans une intimité profonde avec Dieu. Des chrétiens qui s'encouragent ensemble, puis s'exhortent à dire non au péché, puis à dire oui pour Dieu, puis à s'aimer les uns les autres. Ça va arriver des conflits dans l'Église. Mais j'ai besoin des fois d'aller voir mon frère et dire, regarde, faudrait que tu règles ça avec lui, là. Faudrait que tu ailles y parler. Tu as besoin d'y montrer un petit peu d'amour dans tout ça. Alors, une Église qui vit par l'Esprit de Dieu, c'est une Église remplie de l'Esprit, puis qui cherche à glorifier Dieu dans tout ce qui, dans ses relations, puis s'exhorte à vivre dans la sainteté. C'est plus que salut, bonjour le dimanche matin. OK? Si on veut aller là, et vivre, être vivant pour Dieu, on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans nos relations et dire comment ça va spirituellement. Puis des fois, on n'est peut-être pas disposé à se faire poser cette question-là. Mais on doit l'être. Moi, je l'ai déjà dit, frères et sœurs, je veux vivre pour la gloire de Dieu. Je m'attends de vous que des fois, vous veniez me voir et dire, si j'ai manqué dans faire la volonté de Dieu puis de glorifier Dieu, je m'attends. Puis c'est ce que la parole de Dieu m'enseigne. Je m'attends que quelqu'un vienne me voir puis me dise, regarde, Seigneur, il dit ça, puis je pense que tu devrais travailler là-dessus. Je sais bien d'affaires à travailler, c'est correct. Mais des fois, si je peux avoir manqué, il faut être disposé. Être disposé à ce qu'on s'encourage et qu'on s'exhorte. Être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est pas chercher mon plaisir personnel, c'est chercher le plaisir de l'Esprit de Dieu. Une Église qui est composée de membres qui pratiquent un amour vivant les uns envers les autres. C'est comme je disais, c'est plus que dire je t'aime rapidement un dimanche matin ou salut, comment ça va, puis au revoir. C'est plus dur de dire je t'aime, surtout les Québécois. Plus dur de dire je t'aime que de chialer. OK? Chialer, là, ça c'est facile. Hein, on va dire ça, chialer. Demandez à ma femme le plus grand chialeux qu'elle a rencontré dans sa vie, c'est moi. OK? Je suis un chialeux. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, facile de chialer. Ah, pourquoi c'est pas fait de même? Pourquoi t'as pas fait ça de même? Pourquoi t'as tout? Tu sais, là, on peut réagir, puis ça m'arrive. On est une gang de chialeux. Les Québécois. Mais en Christ, le Seigneur me libère du Québécois que je suis pour vivre pour la gloire de Dieu. Et maintenant, je veux plus être le chialeux, mais je veux être celui qui encourage et qui manifeste l'amour. Peut-être des fois, ça mérite de juste se fermer, on va le dire de même, se fermer à trappe de temps en temps, passer par-dessus, pardonner une faute, des choses qui sont pas parfaites. Mais si on veut vivre pour Dieu, on a besoin de cesser les médisances puis le chialage, puis de s'aimer les uns les autres, se pardonner comme Christ a pardonné, comme Christ nous a pardonné. Une Église vivante, c'est une Église qui possède un témoignage dans la communauté. Est-ce qu'on est une Église centrée sur nous-mêmes ou qui cherche à faire connaître la nouvelle vie en Christ aux gens autour de nous? On a besoin de prendre soin les uns des autres, mais ça doit nous amener aussi à l'Évangile, la nouvelle vie, la vie nouvelle nous amène à sortir aussi. Et puis, on a besoin de se tourner vers les gens qu'on côtoie de jour en jour. Puis là, encore une fois, pas d'en faire plus, mais dans votre quotidien, êtes-vous en train de le manifester, que vous aimez le Seigneur, puis que vous avez une vie nouvelle en Christ, êtes-vous en train de le partager, est-ce que ça se voit, que vous voulez marcher dans la sainteté puis glorifier Dieu. En plaçant notre foi en Jésus-Christ, frères et sœurs, on a été unis à Christ dans sa mort, mais dans sa résurrection aussi. On a obtenu la réconciliation avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, je peux entrer dans la présence de Dieu, vivre une relation avec Dieu. Mais ça va plus loin que ça. J'ai obtenu la vraie liberté, la liberté de vivre pour Dieu maintenant. Il y a un théologien au 20e siècle, Anthony Oikema, qui a dit « La vraie liberté, c'est celle de faire ce qui plaît à Dieu. » La vraie liberté, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Parce que la vraie liberté, c'est Dieu qui me la donne. Et lorsque je le glorifie, j'ai la joie, j'ai la liberté. Nous avons obtenu la vraie liberté, la liberté de plaire à Dieu. On a obtenu la liberté de vivre pleinement pour Dieu, pour notre Créateur, pas pour nous, mais pour Dieu. Et on y trouve une joie véritable parce que le Saint-Esprit nous donne la joie de vivre pour Dieu dans la sainteté. C'est une joie qui vient de Dieu. On ne vit plus comme avant, notre vie a changé et maintenant on veut glorifier Dieu ensemble, en Église. Manifestons et témoignons de ce changement dans nos vies en vivant pleinement pour la gloire de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce qu'un jour, tu es venu mourir sur la croix. Tu as reçu sur toi la condamnation que je méritais à cause de mes péchés. C'est moi qui méritais cette mort-là parce que je t'avais désobéi, Seigneur, j'étais rebelle à toi. Je ne méritais pas de vivre pour toi et d'avoir la joie de vivre pour toi, mais je méritais juste de mourir. Une punition éternelle, Seigneur. Mais tu m'as tellement aimé que tu as donné Jésus qui est mort, puis qui a vaincu, a eu la victoire sur la mort, sur le péché. Maintenant, j'ai reçu la bénédiction d'être réconcilié avec toi. Merci, Seigneur, pour ce privilège de vivre en relation avec toi maintenant. Et ma prière, c'est que tu puisses, à travers cette étude, toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent vraiment saisir ce que tu as fait pour eux. Puissent être délivrés et puissent vivre pour toi. Seigneur, on a besoin, nous aussi, les chrétiens qui ont placé notre foi en toi, de vivre cette liberté pour toi. Seigneur, apprends-nous à vivre la vraie liberté qui est de te plaire, de vivre pour toi, de te glorifier, d'être vivant pour toi. Seigneur, aide-moi de jour en jour à identifier les endroits où j'ai manqué, et à vivre pleinement pour ta gloire. Aide-moi à répondre à cette question. Qu'est-ce qui te glorifie le plus, Seigneur, pour que je puisse vivre pour ta gloire? Que je puisse être un modèle pour ton Église et pour qu'ensemble, en Église, on puisse vivre ensemble cette liberté qu'on a eue en toi, la liberté de vivre pour toi et de te plaire. À toi soit toute la gloire. Reçois la gloire, l'adoration, parce que tu es vivant. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité et nous avons la victoire en toi. Amen.